Je me souviens d'avoir enseigné à mes enfants et à des amis comment nager et donc à ne pas couler comme une pierre. Je leur expliquais les bases, je leur faisais une démonstration, puis je leur disais de faire comme moi. Mais mis à part un domaine technique comme le sport, le vélo, la conduite automobile, je ne crois pas avoir jamais dit à quelqu'un de suivre mon exemple, et surtout pas ma façon de vivre, je m'en garderai bien. Par contre, quand l'apôtre Paul écrit aux croyants de différentes églises, il n'hésite pas à les encourager à l'imiter. Il peut se permettre de faire une telle demande sans éprouver la moindre gêne, parce qu'il mène une vie impeccable, digne d'être reproduite par tout croyant. Je continue de lire dans le chapitre 4 de l'Épître aux Philippiens. « Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu de paix sera avec vous. » Philippiens 4, verset 9, comparé Philippiens 3, verset 17. Le mot grec « appris » a donné « disciple » en français et signifie « instruction personnalisée. Mettez-le en pratique n'est pas une suggestion pieuse de l'apôtre, mais un ordre donné au mode impératif. Le mot traduit par pratique signifie action continuelle, une routine, une habitude. Mais cette obéissance n'est possible que si au préalable, le croyant a obéi à l'exhortation précédente que Paul a donnée et qui est que toutes les choses qui sont vraies, noble, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, fasse l'objet de votre considération. Selon la loi cause-effet, une attitude droite engendre un mode de vie noble. Comme les Philippiens connaissent bien leur apôtre bien-aimé, qu'ils ont été à son école et vu comment ils se comportent à leurs yeux, Paul a mérité et gagné le droit de leur demander de suivre son exemple. L'apôtre était un livre ouvert. À Timothée, son ami et disciple, il écrit « Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. » De Timothée 3, verset 10. Paul fait une juste évaluation de lui-même. Dans ses lettres, il dit toujours ce qu'il est sans fausse modestie et sans rajouter. Par contre, dans sa première épître aux Corinthiens, il écrit « Pour ma part, peu m'importe le jugement que vous ou une instance humaine pouvez porter sur moi. D'ailleurs, je ne me juge pas non plus moi-même, car bien que je n'ai rien à me reprocher, ce n'est pas ça qui fait de moi injuste. Celui qui juge, c'est le Seigneur. » 1 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. Avant que l'ensemble du Nouveau Testament soit rédigé, les apôtres sont les seules sources de la vérité divine. Éphésiens 4, les versets 11 à 13. Et aussi, le seul modèle de la vie chrétienne. De plus, et comme je l'ai déjà dit, puisque Paul a vraiment fait de Jésus le centre de toute sa vie, il n'est pas prétentieux le moins du monde, parce qu'il dit aux Philippiens de l'imiter. Dans sa première épître aux Thessaloniciens, il écrit « Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu, et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons, et nous vous y invitons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus. Faites toujours davantage de progrès dans ce domaine. » 1 Thessaloniciens 4.1. Comparez 1 Corinthiens 4.16, 11.1 et 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Apprendre comment plaire à Dieu ici et maintenant sur cette terre est une préparation à la vie à venir dans le royaume des cieux. Sachant cela, et en vue du fait que toutes les épîtres de Paul sont inspirées de Dieu, les croyants ont aujourd'hui encore plus de raisons que les Philippiens de suivre l'exemple de l'apôtre. Ceux qui l'imitent seront gardés par le Dieu de paix, dans le sens qu'ils connaîtront la paix du cœur. Dieu de paix est l'une des expressions favorites de Paul pour décrire Dieu. Il l'utilise souvent pour rappeler que la présence du Seigneur est indispensable à l'être humain afin qu'il puisse jouir de la tranquillité de l'âme et du contentement de l'esprit. Je continue le texte. Je me suis réjoui comme d'une grâce venant du Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'avez pas eu l'occasion de la manifester. Philippiens 4, verset 10. Nous arrivons finalement, non, pas au cœur du sujet, mais à la raison première qui a motivé Paul à rédiger cette lettre. Il tient absolument à remercier les Philippiens pour leurs dons généreux et répétés. À la pensée de leur largesse, il est rempli de joie parce qu'il prouve ainsi qu'ils continuent à s'intéresser à lui, alors qu'il les a quittés depuis bien longtemps, puisque cela fait maintenant bien 10 ans que l'apôtre a fondé l'église de Philippe. Ces braves chrétiens ont continué à pourvoir financièrement aux besoins de l'apôtre quand il s'est rendu dans la ville de Thessalonique et de Bérée, acte 17, versets 1 à 13, et dans la province grecque de Macédoine, puis une fois encore quand il est allé exercer son ministère à Athènes et à Corinthe, acte 17, versets 14 à 18 et chapitre 18. Mais ensuite, et sans qu'on en connaisse la raison, le contact fut rompu entre les Philippiens et Paul. Après plusieurs années en tant qu'évangéliste itinérant, l'apôtre est finalement arrêté à Jérusalem, puis emprisonné à Césarée, aujourd'hui Orba Kisarie, une ville au bord de la Méditerranée dans le nord de la Palestine. Comme après 2 ans, il n'a toujours pas été jugé et que son incarcération traîne en longueur, il fait appel au tribunal de César et il est donc transféré à Rome où il arrive après une traversée en bateau plus que mouvementée et qui est racontée en détail dans le livre des Actes, chapitres 27 et 28. C'est à ce moment-là que les Philippiens apprennent, on ne sait pas comment, que Paul est dans les chaînes. L'occasion est parfaite pour reprendre contact avec l'apôtre, surtout que ces braves chrétiens veulent absolument faire quelque chose pour lui venir en aide et désirent peut-être être aussi excusés d'être restés silencieux toutes ces années. Alors, et bien qu'il ait été très pauvre, de Corinthiens chapitre 8, les versets 1 et 2, ils se sont cotisés pour lui envoyer une somme rondelette par les bons soins d'Épaphrodite. Un de leurs pasteurs, un homme de confiance et un serviteur modèle. Pour l'apôtre emprisonné, c'est un don du ciel. En effet, au vu de sa situation, cet argent est un immense bol d'air frais. Par l'intermédiaire de ses braves croyants, Dieu pourvoit aux besoins de son serviteur emprisonné. Mais au-delà des espèces sonnantes et trébuchantes, ce qui est surtout réjoui l'apôtre, et il a fait chaud au cœur, c'est le geste, l'expression d'amour des Philippiens. Quand Paul écrit « Votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits », il utilise un terme d'horticulture qui décrit une plante qui refleurit. L'affection des Philippiens, qui, pendant des années, étant veilleuse, se réveille pour s'épanouir à nouveau. Quant à Paul, il est bienveillant dans ses paroles, car il affirme qu'il n'a jamais douté de leur amour. En effet, en gros, il leur dit « Vous m'avez toujours porté dans votre cœur, mais vous n'aviez pas eu, jusqu'ici, l'occasion de le montrer. » Cette lettre est un beau témoignage de la collaboration matérielle et spirituelle des Philippiens au ministère de l'apôtre dans plusieurs domaines. Il y a bien sûr leur soutien financier et aussi moral, puisqu'ils ont envoyé Épaphrodite, un des leurs, pour être son aide de camp. Deuxièmement, au début de cette épître, Paul est très personnel, candide même, car il consacre beaucoup de temps à parler de lui en expliquant tout ce qui concerne sa situation de prisonnier ainsi que les conséquences sur son ministère. Philippiens 1, les versets 12 à 26. Troisièmement, l'apôtre ne tarit pas dès l'âge pour Épaphrodite et son service auprès de lui. Tous ces éléments montrent à quel point le partenariat entre l'église de Philippe et Paul est important et solide. Je continue le texte. ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, mais j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. » Philippiens 4, verset 11. Paul a déjà parlé des besoins et quelle attitude le croyant doit adopter à leur égard quand il a dit « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu, adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. » Philippiens 4, verset 6. Il reprend cette même idée, mais l'applique à son cas personnel. La première chose que l'apôtre fait est de dire aux Philippiens qu'il est sincèrement reconnaissant pour leur générosité. Cependant, Paul tient à préciser qu'il ne dépend pas de leur secours et qu'il ne cherche pas à en recevoir davantage. Il a appris à être satisfait des circonstances extérieures, qu'il ait peu ou beaucoup. Il exprime une certaine prudence, une réserve même face à la question brûlante de l'argent, mais sans pour autant proclamer sa totale indépendance financière, comme il le fait dans sa première épître aux Corinthiens au chapitre 9, les versets 14 et 15. Paul ne demande l'aumône à personne, car il ne veut surtout pas être assimilé à ces philosophes itinérants et charlatans, en tout genre motivés par le gain, qui font des discours sur les places publiques afin de récolter quelques sous. Il ne veut pas non plus qu'on puisse le comparer à l'un de ces ignobles personnages de l'Ancien Testament qui, pour acquérir des richesses terrestres, vendirent leur âme. Le plus célèbre est Balaam, nombre 26, un devin mi-sorcier, mi-prophète, un être énigmatique qui a des côtés occultes tout en se déclarant serviteur de l'Éternel. Opportuniste, il accepte, pour une forte somme d'argent, de prononcer une malédiction sur Israël, alors que Dieu lui a expressément ordonné de n'en rien faire. Comme ça n'a pas marché, ce triste personnage trouve un autre moyen de se remplir les poches. Il se rend exécrable en indiquant à ses pourvoyeurs de fonds deux tribus qui désirent la destruction d'Israël. Comment attirer la malédiction de l'Éternel sur Israël? Il leur explique comment utiliser leurs belles femmes bien charnues pour introduire dans les rangs israélites le culte de débauche à une divinité locale. Ce conseil perverse fut suivi et fonctionna comme sur des roulettes. Le Nouveau Testament met en garde contre la conduite infâme de Balaam, le type même du faux prophète, ami de l'argent et avide des hommages humains. De Pierre, chapitre 2, verset 15, et Jude, chapitre 11. Dans notre société moderne, le fric est un mal nécessaire. Quand on n'en a pas, c'est la brèche, et si on en a un peu, ça complique drôlement la vie. Pour les nantis, c'est différent, parce qu'ils ont les moyens de se payer le personnel pour tout faire, dans tous les domaines. Leur jardin, éplucher des patates et laver le pont du yacht. Mais, paradoxalement, ils ne sont pas plus heureux que ceux qui ont peu de moyens. Car le plus souvent, leur vie part à la déconfiture et leur excès les conduit au tombeau. À l'opposé des friquets, on a l'apôtre Paul qui est un homme d'une intégrité exemplaire. Même s'il fait parfois connaître ses besoins aux chrétiens qui le connaissent, sa confiance absolue repose en Dieu. Son attitude détachée vis-à-vis des biens de ce monde montre bien qu'il dépend totalement du Seigneur. Il est certain qu'au moment opportun, Dieu arrangera les circonstances afin de pouvoir à ses besoins et leur fortifiera pour qu'ils puissent faire face à n'importe quelle situation. Jamais Paul ne panique, manipule ou prend les choses entre ses propres mains. Malgré ces circonstances, souvent éprouvantes, il est satisfait de son état et content de son sort. Il est en paix parce qu'il sait que le temps, les époques, les difficultés et les opportunités de la vie sont contrôlées, suivant la résolution du Seigneur souverain qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Éphésiens 1, verset 11. Paul a entièrement confiance en Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Romains 8, 28. Paul n'est donc pas troublé outre mesure dans sa situation de vivre en résidence surveillée, enchaîné de jour et peut-être aussi de nuit à un et peut-être même deux soldats romains et de se nourrir de rations militaires. Quand il dit « J'ai appris en toutes circonstances à être content », c'est la vérité. Le mot grec traduit par « content » n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament. Il signifie « avoir assez, se suffire à soi-même et ne pas dépendre des autres. » Le stoïcien utilisait ce mot « content » pour désigner l'autosuffisance de la force d'âme, qui se traduit par une attitude tranquille face aux pressions et passions de la vie. Ce concept est également très important dans le bouddhisme, mais le comportement de Paul est différent. Il n'est pas du tout stoïque et indifférent aux problèmes, car il les ressent et en souffre, mais il est quand même satisfait et content parce qu'il dépend de la suffisance divine. Un tel contentement au milieu d'une fournaise ne peut venir que du Dieu qui donne une paix qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir. Philippiens 4, verset 7. L'attitude de l'apôtre est tout à fait incompréhensible dans notre société où le mode est d'être constamment insatisfait. Notre culture athée pose comme prémisse que Dieu n'existe pas et ramène donc tout à l'homme. En conséquence, le but de la vie, la première valeur, est d'obtenir ce qu'on désire de n'importe quelle manière et le plus vite possible. Les Français sont d'éternels mécontents et pleurnichards, ce qui ajoute à leur insatisfaction et leur incapacité de distinguer entre besoins réels et désirs égoïstes. Ainsi, la plupart des gens trouvent normal de partir à la retraite à 50 ans et de vivre au crochet de ceux qui bossent. Cette attitude est répandue dans le monde occidental. Un jour, que nous voyagions à l'étranger, nous avons été invités dans une famille qui se disait chrétienne et qui devait être très aisée au regard de tout le luxe dont ils s'étaient entourés. Ils ont alors fait une requête tout à fait surprenante qui m'a fait tomber des nues. Ils nous ont demandé, le plus sérieusement du monde, de prier pour eux afin que Dieu leur donne l'argent dont ils avaient besoin pour construire une grande piscine chauffée sous abri. Il vaut mieux entendre ça que d'être sourd, je suppose. La perspective qu'a Paul de la vie est aux antipodes de cet hédonisme primaire qui, tel une pieuvre, a étendu ses tentacules dans tous les domaines de notre culture dégénérée. Il sait et enseigne que le but de l'homme n'est pas de satisfaire ses caprices, mais de glorifier Dieu, parce que c'est là le seul objectif de sa vie. L'apôtre se contente de peu et même de rien au point où il est toujours satisfait, quelle que soit sa situation. Dans sa première épître à Timothée, il écrit « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. » 1 Timothée 6, verset 8. Comparé à Paul, je suis un minable parce que je dépends beaucoup trop des circonstances. Je suis content quand l'avenir me sourit et chagriné quand les choses ne vont pas comme je veux. Je continue le texte. Je sais vivre dans le dénouement et je sais aussi vivre dans l'abondance. J'ai appris à m'accorder à toutes les situations, à toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Philippiens 4, verset 12. En d'autres mots, Paul dit à ses amis philippiens « J'apprécie beaucoup votre sympathie et votre empathie à mon égard, mais ne vous faites pas de soucis pour moi, car j'ai appris à vivre au sommet de la gloire, mais surtout tout en bas de l'échelle. » Le mot grec traduit par « appris » est un terme très technique qui n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament. Dans les religions à mystère qui prolifèrent dans l'Empire gréco-romain, ce mot signifie « initié ». L'apôtre dit donc qu'il a fait un apprentissage à l'école de la vie et au service du Christ qui lui a enseigné la totale confiance en Dieu. par expérience, Paul a appris à vivre au-dessus de ses circonstances et hors de leur atteinte. Comme celles-ci n'ont aucune prise sur ses états d'âme, il est content quand il croule sous les bénédictions divines, et elles sont nombreuses, ou lorsqu'il doit faire face presque quotidiennement à des problèmes insurmontables, des divisions dans les églises, des faux frères qui sèment la zizanie, la trahison de certains amis, et plutôt de faux amis, le mépris, la haine des juifs et leurs menaces incessantes qui vont jusqu'à des tentatives d'assassinat, la faim, la soif, les nuits blanches, les naufrages, les emprisonnements répétés, les brutalités romaines, et j'en passe. Acte 9, versets 22 à 25, 14, verset 19, 16, les versets 22 à 24, 17, versets 5 à 10, 13, 18, verset 12, 20, verset 3, 21, verset 26 à 35, et 27, 2 Corinthiens 11, les versets 24 à 33. Paul jouit d'un contentement qui transcende ses circonstances parce qu'il garde constamment les yeux rivés sur les réalités célestes, sur la ligne d'arrivée, sur le prix qu'il remportera à la fin de sa course terrestre. Ce qu'il a déjà expliqué plus tôt dans cet épître, comparé Colossiens 3, versets 1 et 2, et 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. L'apôtre est un géant de la foi chrétienne. Il y en a eu bien d'autres, mais Paul est le plus grand, le King Kong, si je peux me permettre cette analogie. Ceux d'entre nous qui sont en bas du panier n'ont aucune difficulté à vivre quand tout baigne, quand c'est le ciel sur la terre. Je me souviens d'avoir une fois connu l'abondance pendant quelques heures. Des amis nous ont invités au plus prestigieux restaurant de Lyon, à Bocuse, où nous avons été traités comme des rois. Tout fut parfait, du service impeccable aux plats succulents qui se succédaient, aux choix fabuleux de fromage jusqu'au dessert à vous couper le souffle. S'habituer à un tel régime ne demande pas le moindre effort. Il n'y a qu'à se laisser aller. Par contre, quand on vous a volé votre voiture, ou que la cheminée est en feu, ou que votre enfant est bien malade, ou qu'un ami se retourne contre vous, ou que vous devez faire face à une situation tragique, c'est une toute autre paire de manches. Et pour la plupart d'entre nous, il est bien difficile de garder la tête froide ou une foi à toute épreuve. Quand ça va mal, le royaume des cieux est un pays de cocagne et le prix de la vie chrétienne se trouve à des années-lumière. C'est pourtant dans les moments difficiles que les paroles et l'exemple de l'apôtre Paul revêtent toute leur signification et doivent être mis en pratique. Mais je dois avouer que je ne suis pas très bon. En fait, je dois dire pas bon du tout. Paul peut toujours voir la lumière au bout de son tunnel et il sait discerner le soleil qui brille à travers le brouillard de ses problèmes. Dans sa seconde épître aux Corinthiens, il écrit « Nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au point insupportable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. » 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 17 et 18.